vous intéresserait que je vous fasse une étude, mais qui ne soit pas ici, qui soit au château, un mercredi soir sur... En plus, je vous avais parlé de Marie-Madeleine, de toutes ces choses bizarres qu'il y avait dans... Est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle de ça et de choses étranges dans la parole de Dieu? Bon, j'ai préparé ça pour... je ne sais pas quand. Mais je vais le préparer alors. C'est très bien parce que bon, voilà, il faut savoir, il faut connaître. J'ai déjà un peu parlé hier avec Stéphane dans la voiture. J'en glisse des mots à ma femme de temps en temps aussi. C'est très intéressant. Jean 17, 17. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Dieu vous bénisse. Il fait beau aujourd'hui. Nous sommes en Normandie. Il fait beau en Normandie, c'est vrai. Voilà. Il fait le même temps qu'à Paris, deux jours avant. Donc on est encore plus mieux bien qu'à Paris. Ça balance pas mal en Normandie. Jean, alors nous lisons Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est Jésus qui parle, hein? C'est Jésus qui prie, en fait. Il demande à son Père, qui est hors âge, hors temps, c'est-à-dire en dehors de sa création, qui est esprit. Il lui dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous pouvez vous asseoir. Vendredi, je vous disais que l'épreuve de la foi nous fait grandir. Maintenant, c'est quoi grandir? C'est quoi grandir? Ça signifie que notre position est plus élevée. Je veux dire, on ne change pas. Alors, qu'est-ce que c'est grandir? Vous savez, sur le chemin du chrétien, il y a des épreuves. Et une fois passées les épreuves, eh bien, il y a encore le chemin. Alors, je pourrais m'arrêter là, dire, voilà, allez, méditez avec ça, vous verrez, c'est super. Mais bon, je ne vais pas vous faire ce coup-là, je vais quand même vous expliquer un peu. C'est mon travail, c'est ce que j'aime faire. Et j'aime bien chercher les choses, les trouver dans la prière et puis venir vous les expliquer. Un, avant l'épreuve, vous êtes sur le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Deux, pendant l'épreuve, vous êtes encore sur le chemin. Trois, après l'épreuve, vous êtes encore sur le chemin. Ben voilà. Ben voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous avez passé l'épreuve, rien en vous a changé. Vous êtes toujours une personne aimée, vous aviez été aimé avant, vous êtes choisi, vous avez été choisi avant, vous êtes toujours sur le chemin, vous êtes toujours en Dieu, vous êtes toujours vous-même, tentable toujours, dans la possibilité de succomber encore, etc. Vous êtes sur le chemin. Simplement, votre âme se réjouit parce que Jésus en vous s'est manifesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a vaincu. Par exemple, on va prendre un exemple, tous les péchés, on va prendre par exemple le manque de patience. Manque de patience. Ça, c'est à vous, hein, vous êtes bien conscient que c'est à vous. Manque de patience. Votre niveau de patience, une fois que l'épreuve est passée victorieusement, avec les principes que je vous ai enseignés ces derniers temps, eh bien, votre niveau de patience se trouve alors au top. Et, je vous le dis, ça ne peut pas, ce niveau de patience-là ne peut pas être grandi. Pourquoi? Mais parce que ce niveau de patience est celui de Jésus. Et sa patience, elle est parfaite. Une fois que sa patience était manifestée en vous, la patience en vous est parfaite d'une façon manifestée. Elle l'a été durant votre épreuve, vous en avez fait l'expérience, et votre âme s'en trouve réjouie. Alors, ça ne veut pas dire que dans le temps, ça va se repartir. Vous l'avez, et c'est bon, et vous l'avez. Maintenant, vous savez que votre patience, c'est Christ en vous. Vous connaissez le mécanisme, vous avez expérimenté, vous savez comment répéter l'expérience. En PNL, on fait des expériences qui sont scientifiques dans le sens que on sait que des choses qu'on fait peuvent être répétées. Des expériences. La même chose avec le Seigneur Jésus. Le texte que nous avons lu ce matin nous montre que c'est le travail de Dieu de nous sanctifier. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Dieu sanctifie ceux qui le suivent par la vérité. Sanctifie pas tout le monde. Jésus, là, dans cette prière, ne prie pas pour tout le monde. Dieu sanctifie ceux qui le suivent par Jésus qui est en eux. Je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens 1:30. 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. J'étais patient, mais c'est grâce au Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui a manifesté sa patience parce que j'ai lâché prise, parce que j'ai fait confiance dans sa parole, parce que j'ai cru. Et puis, il a pu agir, parce que ma chair ne faisait pas obstacle. Mais c'est lui qui est quoi ? Ma sagesse, ma justice, ma sanctification, mon rachat. C'est lui, il est tout ça. Il sanctifie ceux qui le suivent par la vérité, c'est-à-dire par Jésus en nous. Et Jésus est en nous par Dieu, par lui, par Dieu. Par exemple, quand Jésus était fait homme, il s'est limité volontairement. Il est venu et il s'est limité. Mais Jésus-Christ fait homme, a été fait pour nous, c'est-à-dire à notre place, il était fait péché. C'est pas qu'il a seulement pris nos péchés sous le bras, puis s'est taillé dans le séjour des morts, puis l'a posé là. Non, c'est écrit qu'il a été fait péché pour nous. Il a été fait péché. C'est-à-dire, c'est comme nous, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, nous sommes pécheurs, alors nous péchons. Et lui, il a été fait péché, c'est devenu sa nature, comme notre nature est pécheresse, sa nature est devenue pécheresse, il a été fait péché. Mais ensuite, il est ressuscité, et il a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Par sa résurrection, 1 Corinthiens 15:45 nous dit qu'il a été fait péché. Il est devenu un esprit vivifiant. Vivifiant quoi ? Les pâquerettes, les petites fleurs, les machins ? Non, nous, ceux qui le suivons. Nous qui avons été appelés, nous qui avons été élus, il nous vivifie. Ce qui nous sanctifie, c'est Jésus en nous. Ce qui élargit notre capacité d'être saint, c'est la vérité. Il dit « Je suis la vérité ». Il ne dit pas « J'ai la vérité, je vous donne un petit bout ». Non, il dit « Je suis ». La vérité. Évidemment, la vérité, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, on vient de le lire. Et la parole, c'est Jésus qui est devenu chair, qui s'est fait chair. C'est Dieu qui est venu dans un corps d'homme, il s'est fait chair. Il est devenu la vérité incarnée, disant des vérités, faisant des choses vraies, authentiques. Mais il est la vérité, autant que nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Elle ne lui dit pas la vérité parce que il n'est pas la vérité parce qu'il dit la vérité. Il est la vérité, alors ce qui est lui sort de lui, se manifeste. Et maintenant, Jésus étant venu en chair, ce qu'il a dit, ces choses qui sont sorties de lui, ces vérités qui sont sorties de lui, ont été consignées dans ce livre, la Bible. Jésus, donc, il nous a dit qu'il est la parole, et nous savons que la Bible redonne ses paroles. Bon, s'il avait existé à l'époque des DVD, on aurait des DVD de Jésus, on aurait ses sermons filmés, enregistrés, on pourrait les avoir sur notre MP3 ou notre iPod, ça serait merveilleux. Bon, on peut les avoir, hein, il n'y a qu'à les mettre dessus, mais bon, on les a en livre parce qu'à l'époque, c'était le moyen le plus clair, le plus courant de diffuser les choses. Donc, Jésus nous sanctifie, mais pas à notre insu. C'est sa volonté de nous sanctifier. Jésus prie que le Père nous sanctifie, mais il ne le fait pas à notre insu. C'est vrai qu'il habite en nous. En esprit, il est en nous. Il a dit, je viens en vous, j'habite en vous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais les écrits sont en dehors de nous. Voilà pourquoi la Bible dit que cette parole-là, c'est une nourriture qu'il faut qu'on intègre, qu'on mange. Il faut qu'on s'en nourrisse, parce que c'est à l'extérieur de nous. si mes paroles demeurent en vous, alors c'est là que vous porterez beaucoup de fruits. C'est-à-dire des résultats. C'est-à-dire cette parole en nous va produire des choses aussi. Les écrits sont hors de nous. Nous devons les connaître. Notre âme doit donc en prendre conscience. C'est-à-dire notre intelligence, notre mémoire, tout ça, ça doit prendre conscience de ce que Jésus a dit. Si vous lisez les Écritures, attention! Ces Écritures disent d'elles-mêmes qu'elles peuvent tuer. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah, l'esprit. L'esprit, c'est Jésus. C'est-à-dire que ça ne va pas sans Jésus en soi. Si Jésus n'est pas en vous, cette lettre-là, ça va vous rendre zinzin. Ça va vous tuer. Ça va faire de vous un religieux. Ça va faire de vous un légaliste. Nous avons à étudier la Bible tout en sachant que nous ne pourrons jamais la comprendre intégralement. Déjà, ça nous rend humbles. Et tous les chrétiens qui la lisent et la comprennent progressivement. Mais Jésus en eux, il est là, total. La Bible nous apprend ce que Dieu considère comme péché. Et nous avons appris dans la Bible que le péché, il n'y en a qu'un. C'est le manque de foi. Ne pas croire que Dieu est là nous autorise à faire tout ce que nous appelons péché, c'est-à-dire voler, mentir, et tout ce que vous voulez, puisque nous ne croyons pas que Dieu est là. On peut se permettre de faire n'importe quoi. Donc le réel péché, c'est le manque de foi. Nous ne serons pas envoyés en enfer parce que nous sommes drogués, nous nous sommes enivrés, nous avons fait l'adultère, nous avons copulé dans tous les coins, nous avons fait menti. C'est pas ça qui va nous envoyer en enfer. Ce qui va nous envoyer en enfer, c'est parce que nous n'avons pas cru. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croira en moi sera sauvé. Parce que celui qui croit en moi, eh bien, il lui est donné la force de ne plus faire ces choses. Progressivement. Comme la révélation est progressive, la révélation pas des choses intelligentes qu'on peut comprendre avec notre intelligence, mais la progression de la prise de position de Christ en nous pour faire les choses. Ça prend toute la vie. Et encore, à la fin de votre vie, vous ne serez pas encore un saint. Vous n'y arriverez jamais. On n'y arrivera pas. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Il faut simplement se contenter de progresser. Mais il faut progresser quand même. Vous allez dire, oh ben non, je commencerai demain, comme les régimes. Hein. Non, c'est chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Plus on va de l'avant dans la connaissance des écrits, dans la connaissance de la parole faite livre, plus on s'aperçoit que nous avons vraiment besoin de Christ en nous. Parce que tout ce qu'il nous demande, c'est impossible à faire. C'est impossible. Impossible. Mais la foi couvre tout, c'est-à-dire rend toutes ces choses possibles, tout ce que nous faisons et tout ce qui n'est pas à faire maintenant par la foi en Jésus-Christ qui est en nous, cela devient possible de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, ce qui est bien, on fait, ce qui n'est pas bien, on ne fait pas. Ça nous est possible par la foi que Jésus-Christ est en nous pour nous donner la force. Alors, la Bible, ce n'est pas qu'un livre qui raconte ce qui est bien et ce qui est mal. Elle est aussi un livre de savoir-vivre. De savoir bien vivre. Parce que, par exemple, vivre dans l'abondance financière, est-ce que c'est mal? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Vivre dans la pauvreté, est-ce que c'est un mal? Pour moi, oui. Et pour d'autres, non. Je connais des tas de pauvres qui sont super contents, qui vivent très très bien. Ils me diront, ah bon, ben dis donc. Oui, je sais, nous autres, en tout cas ici, dans nos pays, on préfère avoir le portefeuille bien garni plutôt que d'être pauvre. On trouve que la pauvreté, c'est mal. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit que nous devons savoir vivre, voyez, dans la disette comme dans l'abondance. Donc la Bible, ce n'est pas un livre qui parle que du bien et du mal, mais aussi du savoir-vivre. Du savoir-vivre. Plus nous lisons, et plus nous nous apercevons que notre âme n'y suffira pas, notre intelligence, notre sagesse, parce qu'on en a un bout d'intelligence quand même, on en a un bout de sagesse quand même. Puis voilà, à table avec ceux qui sont venus parler avec moi, on m'a dit, Michel, tu dis qu'on ne change pas, mais quand même, je dis, on mûrit. On ne change pas, mais on mûrit. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, alors évidemment, ça nous stabilise un peu, mais on ne change pas. Je serai toujours Michel Janton, je serai toujours la personne que vous êtes. On mûrit, alors ça a l'air d'être, ah, il est mieux maintenant. Oui, bon, il faut le dire vite, hein, parce que on est quand même toujours les mêmes. Sans la grâce, ben moi je vais droit en enfer, je ne mérite rien du tout. Parce que je suis un pécheur sauvé par grâce. Vous vous rappelez ce que j'avais prêché chez Carambiri? J'ai dit, ici il y a deux sortes de pécheurs, les pécheurs perdus et les pécheurs sauvés. Mais c'est des pécheurs quand même. Qu'est-ce que vous êtes? Vous pouvez être un pécheur sauvé, un pécheur pardonné. Si seulement tu crois dans le Seigneur Jésus qui est ton sauveur, tu l'honores par ta foi, par la confiance que tu places en lui, alors il t'aide petit à petit, progressivement, et ta vie prend un relief que tu ignorais avant. Et la connaissance de Jésus-Christ donne à ta vie un épanouissement, mais pas une transformation. Il n'existe pas ça. Ça, c'est la magie, c'est Disney. Il n'existe pas un coup de baguette magique et un crapaud qui devient un prince charmant. C'est génial. En d'autres mots, notre capacité se trouve accrue en même temps que la lumière de la vérité révèle notre situation réelle. C'est-à-dire la lumière de la vérité nous révèle notre situation réelle de pauvreté, de manquement, d'incapacité, mais plus nous apprenons que nous sommes incapables, plus nous devenons capables. C'est étonnant, c'est tout à fait à l'inverse des choses de ce monde. C'est pourquoi les gens pensent qu'on est fou. « Oh, mais pourquoi croire ? Vous êtes complètement stupide. » Bon, d'accord, restez dans votre intelligence et nous continuons dans notre stupidité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence des gens de ce monde les ont conduits à quoi ? Les guerres, les divorces, les malheurs, les suicides, les incestes et toutes ces choses, ces malheurs, c'est l'horreur. Ben, si vous trouvez que c'est bien la vie sans Dieu, continuez, c'est facile. C'est super. Mais nous avons choisi un autre chemin qui est un peu plus difficile. On passe pour des idiots. Bonjour les crétins. D'abord, le mot crétin vient du mot chrétien. C'est les gens extérieurs qui ont dit, voilà, les chrétiens, c'est des crétins. Oui, quelques-uns, c'est vrai, il faut reconnaître. Mais un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est sage, au contraire, et qui ne vit pas comme ça se passe dans ce monde, mais il a certaines règles qui lui rendent la vie plus agréable. Pierre disait, dans 2 Pierre 3,18, « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croître dans la grâce. Mais on était graciés ou on n'a pas été graciés? Oui, on était graciés. Jésus nous a fait cadeau du salut, c'est sa grâce. Maintenant, comment on peut croître là-dedans? Il dit « Croissez dans la connaissance ». Croître dans la grâce, c'est premièrement prendre conscience de notre besoin de grâce. On a besoin d'en prendre conscience jour après jour. C'est progressif. Plus on va de l'avant, plus on étudie les Écritures, plus on se rend compte qu'on a besoin de la grâce. Premièrement, croître dans la grâce, c'est prendre conscience de notre besoin de la grâce, du cadeau de Dieu. Deuxièmement, c'est accepter le jeu des épreuves de la foi. C'est un jeu. Et donc, c'est beaucoup plus confortable de s'installer dans un salon puis de regarder Harry Potter qui passe par des épreuves pour arriver à avoir le cheveu mené à bout filtre, mordoré, bougon, sous-glissant, à flavouille, pachin matin. Mais nous, non, on n'est pas assis dans un fauteuil en train de regarder les choses, c'est nous qui passons par les épreuves. Ah, c'est un peu moins rigolo de passer soi-même par les épreuves de la foi. C'est pourquoi la Bible dit qu'à la fin des temps, les gens écouteront des fables, mais on est en plein dedans. Les fables, mais ça fait un pognon. C'est formidable. Tous les cinémas sont pleins, les théâtres, les opéras, les livres se vendent. Hein, Didier? C'est des fables, tout ça. Les gens se nourrissent de fables. Et après, ils vont parler de un tel, comme s'ils existent, alors que c'est simplement des héros de bouquins, de films, c'est rien du tout. Autre jour, je suis allé voir Poséidon avec mon épouse et une sœur de la communauté, un film sur un naufrage, et j'ai dit, il paraît que c'est une histoire vraie. Puis après, j'ai appris que c'est pas vrai du tout, c'est une histoire. Mais j'ai transpiré, j'étais bon pour prendre une douche à la sortie du film. On se gorge de fables, on se raconte des histoires de gens qui passent par des épreuves. Alors là, le bateau se retourne, alors ils ont le choix. Est-ce qu'on reste dans la grande salle à manger avec tout le monde ou est-ce qu'on essaye de sortir par le haut? Ah, on va essayer de sortir par le haut. Alors, on se dit, oh là là, on voit déjà ceux qui vont pas y arriver. De tout de suite, pas forcément. Alors ils se battent, ils passent dans une petite salle, voilà, ça s'inonde, alors il faut qu'ils quittent tout de suite parce qu'il y a des fils électriques, ils vont tous électrocuter, mais la porte d'entrée est toute petite, ils sont nombreux pour passer, c'est grave. Alors on transpire, et puis après ils arrivent enfin dans l'autre pièce. Alors là c'est pire, il y a des gaz nocifs. Puis après, c'est pire. Enfin, ça n'arrête pas. Il y a des explosions, il y a tout ce que vous voulez, des épreuves. Et chaque fois qu'on croit, ouf, eh ben non, ça recommence et c'est pire. Ben, voilà, alors on regarde ça, on est captivé. Notre vie, c'est ça. Il faut sortir aussi par le haut. Il faut sortir par le haut. Il ne faut pas se contenter de rester là avec le peuple bêlant en disant « Ah, c'est la faute du gouvernement. » Oui, bon, ben, si vous voulez dire ça à faute du gouvernement, c'est vrai qu'ils ont une certaine part de faute. C'est quand même vous qui les avez élus. Je dis ça, je m'en fous, je suis suisse, c'est pas moi qui ai voté. Voilà. Donc, ceci dit, nous devons accepter le jeu de l'épreuve de notre foi pour pouvoir croître. On ne peut pas croître s'il n'y a pas des difficultés. Juste à côté de la chapelle, il y a une salle de muscule. Si Stéphane ne va pas à la muscule, il va redevenir comme il était quand il avait 15 ans. Mais s'il fait de la muscule, il va se fortifier. C'est la même chose avec les choses de la croissance de la foi. Et cette prise de conscience de notre besoin de la grâce, ça nous vient de la Bible. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Par exemple, si vous avez conscience du besoin de la grâce parce que le diable vous accuse, vous avez tout faux. Ça va vous entraîner vers le bas. Et beaucoup de gens sont là. Ils ont conscience du besoin de la grâce de Dieu parce que le diable les accuse. Ouais, t'as vu, hein, t'es chrétien, puis t'as fait ça, puis t'as dit ça, puis t'as fait comme ci, puis t'as agi comme ça, puis comme ça. Et le diable les accuse. Oh là, oui, c'est vrai. Oh là là, qu'est-ce que je suis misérable, qu'est-ce que je suis minable. Et voilà, ils écoutent ça. Non, il y a l'accusation que le diable porte contre vous, qui est quelque chose de très nocif, c'est un poison, mais ça ressemble à la vérité qui est dite dans la Bible. Mais le résultat, ce n'est pas le même. Voilà pourquoi vous devez vous nourrir de la parole de Dieu qui est en dehors de vous. C'est un livre. J'espère qu'il n'est pas seulement posé sur votre table de nuit, mais qu'il est votre nourriture de chaque jour. Là, tout à l'heure, on va manger à midi. Ben, on pourrait dire, à quoi ça sert, on a déjà mangé hier. Et puis, on va encore manger ce soir. On pourrait se dire, tous les jours. Ben oui, ben, la Bible aussi, c'est une nourriture, c'est tous les jours. Plusieurs fois par jour. Alors, c'est la Bible qui est le levier de tous les prédicateurs de la condamnation. Ils se servent de la Bible pour montrer le bien et le mal, le révéler chez les gens, la loi, hein, et puis leur montrer que leur fin, c'est l'enfer, et que c'est la condamnation, et tout ça. Ils font un travail de bricoleur, parce que c'est vrai que la Bible parle du bien et du mal, et de l'enfer, et toutes ces choses. Mais on ne doit pas prêcher que ça. Ça, c'est un travail de bricoleur. Et la plupart des gens entretiennent leurs fidèles dans les religions, avec justement la peur de l'enfer, le bien, le mal, tout ça, pour pouvoir les fidéliser et pomper leur pognon. C'est un travail de bricoleur, de gens nuisibles. Parce qu'ils travaillent avec la vérité écrite dans le livre, sans compter que Jésus vit en nous pour nous donner la possibilité de vivre ce bien. Alors, comme je vous le disais, nous, on n'y peut rien, on ne peut pas. Seul Christ qui vit en nous peut se manifester et manifester la patience, manifester la douceur, manifester la sainteté, manifester ces choses. Nous, on essaye et on a tellement bien compris qu'on ne peut pas, que même les gens incrédules, les gens qui ne croient pas en Dieu, ils en sont arrivés à la conclusion que chasse le naturel, il revient au... C'est pas écrit dans la Bible, mais ça pourrait. C'est Jésus, il est écrit, c'est Jésus qui est notre sanctification. C'est Dieu qui nous met à part, lui-même, par la vérité. Premièrement, qui est en nous. Deuxièmement, qui est dans le livre. Mais c'est la fusion des deux choses qui produit cette sainteté. L'un sans l'autre ne va pas. L'un sans l'autre ne forme rien. C'est pourquoi Jésus veut que sa parole demeure en nous abondamment. Et voilà pourquoi je vous exhorte à la lire, à la méditer, à en parler avec moi et entre vous. Parce que la parole écrite a le pouvoir de vous rendre libre par l'Esprit qui est en vous et qui est vivifiant. Si Christ vit en vous, par l'Esprit, vous pouvez devenir libre. Si Christ ne vit pas en vous, la parole que vous lisez, que vous étudiez, va faire de vous simplement des religieux. Des gens avec une tradition. Voilà. C'est la majorité, hein. C'est des gens qui ont une tradition. Alors, c'est pourquoi l'apôtre dit « Croissez dans la grâce, appropriez-vous de plus en plus la grâce, puis graciez les autres. » Croissez dans la connaissance de Jésus-Christ, de sa personne en vous et dans les Écritures, et de Jésus dans les autres. Connaître Jésus, ça ne va pas sans connaître la Bible. Des gens qui disent « je suis chrétien, mais je ne lis jamais la Bible », ils ont, en général, quand vous leur parlez de Jésus, ils n'ont pas le même que nous, hein, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment est Jésus, qui est Jésus. Ils connaissent, oui, les histoires classiques, mais ce trait de caractère, sa volonté, ils ne savent pas. Donc, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ seulement en esprit, il nous faut aussi la lettre. Alors Dieu a donné les Écritures pour que demeure ce que Jésus a dit et fait. Ce qu'il a dit et fait montre qui il est. Ce n'est pas une question de sentiment. J'aime Jésus. J'aime la Vierge Marie. J'aime, ah, moi je préfère Bernadette Soubirou à l'autre, je ne me rappelle plus. Pourquoi ? C'est des sentiments. C'est des sentiments. C'est très joli les sentiments, mais les sentiments. 1. La parole de Dieu, la Bible nous montre que Jésus est Seigneur et qu'il est Sauveur. Un Seigneur, on l'écoute pour faire ce qu'il dit. Maintenant, est-il écrit quelque part que Jésus est un jugeur et un condamnateur ? Jamais. 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 Par contre, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait servira un jour à juger les incrédules. Il a dit, mais moi je ne vous juge pas. C'est ce que j'ai dit qui vous jugera. Vous voyez ? Et c'est ce que Jésus a dit, qui est écrit là, qui les conduira du mauvais côté du séjour des morts. Mais Jésus lui-même, là, tant que vous êtes vivant, il ne vous condamne pas, il ne vous juge pas, il vous aime, il veut vous élever, il veut votre bien. Il est Seigneur, sa parole nous donne notre position, c'est-à-dire serviteur, servante. J'aime pas ça. Moi, je ne veux pas. Il y en a qui disent, moi, je ne veux pas être un esclave. Moi, je ne veux pas être un robot. Bon, d'accord, tu ne veux pas être un robot, contente-toi déjà pas d'être un serviteur, c'est déjà bien. Et il y a des degrés dans le service. Pas des degrés qu'on impose aux autres soi-même en disant, voilà, moi, j'ai reçu ça, moi, j'ai ça. Ça, c'est les Nicolaïdes qui font ça. Mais des degrés que Jésus rend réels aux yeux des siens. On voit si celui-ci a reçu ou pas. Les serviteurs ne pourront pas agir en son nom sans avoir acquis une certaine maturité. Il y a des choses bizarres. Quand je me suis converti, 3 jours après, j'ai prié pour le premier malade. C'était un paralytique. Il a lâché ses béquilles et il a marché. Pourtant, je n'avais aucune maturité spirituelle. Dieu voulait simplement me saisir, me montrer quel était le chemin qu'il avait pour moi, un chemin de salut et guérison. Mais il a fallu que je mûrisse, parce que sinon j'allais me servir de ce pouvoir d'une drôle de manière. Ce que font beaucoup de gens, ils ont certains pouvoirs, mais les monnaient. Donc la maturité, c'est pourquoi vous devez, vous voyez tant de chrétiens par exemple aussi qui prient, ils prient. Ils prient demandant à Dieu qui est au ciel de faire les choses ici-bas sur la terre. D'autres, plus mûrs, font au nom de Jésus sur la terre ce qui est fait au ciel. Ça, c'est ce que Jésus veut. Ça demande une maturité. Celui qui agit au nom de Jésus prie beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais prié. Mais il prie plus, ou presque plus. Beaucoup moins, en tout cas. Parce qu'il y a une différence de degré. D'où vient cette différence de niveau ? Eh bien, de la croissance dans la grâce et la connaissance. Celui qui lie et qui délie au nom de Jésus-Christ sur la terre, il a atteint un niveau différent de celui qui demande à Dieu de lier ou de délier. Imaginez, Jésus est le Seigneur, vous êtes le serviteur. Vous êtes le serviteur et vous demandez à votre Seigneur de faire les choses. Ça ne tient pas la route, ça n'est même pas logique. C'est vous qui devez faire les choses. La Bible dit que c'est nous qui devons aller. Aller guérissez les malades. Je vais dire quelque chose de terrible. Aller et sauver les gens. Oh, Michel, mais Jésus est le sauveur. Il nous a menté pour aller les sauver. Si nous n'allons pas, comment seront-ils ? Et s'ils ne savent pas, comment pourront-ils être sauvés ? Vous voyez? Eh bien, cette différence entre ceux qui prient et ceux qui exercent l'autorité au nom de Jésus, c'est-à-dire qui se savent mandatés pour faire de la part de Dieu les choses, cette différence, elle vient de la croissance dans la connaissance de qui est Jésus en esprit et qui est Jésus dans la Bible. Seigneur et Sauveur, jamais jugeur et condamnateur. Jésus-Christ est Seigneur. Ça, on ne le sera jamais. Ceux qui prient, en général, sont les seigneurs de Dieu. Ils commandent à Jésus de faire ceci. Moi, j'entends des fois dans des réunions de prière des choses horribles. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais à Michaud, et dire que chez notre frère, là-bas où nous sommes allés dernièrement, là, ils sont en train de... Vous avez vu comme ils prient? Seigneur Dieu, je te prie maintenant, guéris-le! Au nom de Jésus, guéris-le! Et vous avez vu comme ils commandent Jésus? Mais c'est affreux. C'est abominable. Ça conduit à des extrémités stupides, affreuses, délirantes. Ils sont des serviteurs qui commandent au Seigneur. Quelle horreur. Jésus-Christ est Seigneur, on ne le sera jamais. Par contre, il nous a donné ses pouvoirs, son autorité, et ça se passe dans la douceur. Cette femme paralytique était assise par terre. Je m'approche d'elle, 200 personnes qui regardaient, qui sont témoins de la chose. Et j'ai dit, petite maman, lève-toi au nom de Jésus. Prenons l'autorité, je l'ai fait se lever. Elle était guérie. Ça, c'est l'autorité douce de Jésus-Christ. Douce, mais puissante. Vous voyez la différence entre ceux qui prient? À force de prier, il y a un dérapage parce que une mauvaise compréhension de qui est Jésus, une mauvaise compréhension de ce que c'est que la grâce du Seigneur et Sauveur. La relation serviteur-seigneur doit croître, devenir de plus en plus conforme à ce que Jésus veut. Et ce que Jésus veut, c'est écrit là-dedans. Si vous ne lisez pas, vous ne saurez pas. Si vous ne savez pas, vous n'exercerez pas. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué. Le jeu est que Dieu ne révèle aux siens que dans la mesure où les écrits sont étudiés, en communion avec l'Esprit qui est en eux. C'est une loi. En quelque sorte, c'est un garde-fou. Heureusement qu'il y a ça. Le jeu, c'est que Dieu révèle aux siens les choses dans la mesure où les écrits sont étudiés en rapport, en relation avec l'Esprit de Dieu qui est en eux. C'est une loi, ça pourrait être autrement. Ce moment-là, Dieu a limité toute chose à cette loi et il ne changera pas l'idée. C'est comme ça, puis c'est pas autrement. Sachant que Jésus-Christ est Seigneur, on peut donc croître dans cette communion. Et croître également dans notre connaissance de Jésus, pas seulement le Seigneur, mais aussi le Sauveur. Jésus est le Sauveur, ça on ne le saura jamais. Vous ne serez jamais le Sauveur. Il n'y en a qu'un qui est mort sur la croix, c'est Jésus pour nous sauver. Il n'y en a qu'un. Vous ne pouvez pas être le Sauveur. Personne ne peut être le Sauveur. Bouddha ne peut pas être le Sauveur. Allah ne peut pas être le Sauveur. Tous ces gens qui se prétendent des dieux ne peuvent pas être des Sauveurs. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je suis sectaire? Oui. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui dit, il n'y en a pas d'autre en dehors de moi. Alors moi je répète ce que Jésus dit, et tant pis pour les gens qui pensent que je suis sectaire. Je suis né dans un pays chrétien. Il est de mon devoir de connaître les choses de ma culture, au moins. Et puis ensuite, de connaître si vraiment cette culture est basée sur un fait réel, et si elle est basée sur un fait réel, de m'y intéresser. Parce que pendant qu'on ne s'y intéresse pas en France, l'islam monte. Bon courage. Moi, j'ai le passeport suisse, je m'en irai. Hein. S'ils prennent le pouvoir ici, d'ailleurs, ils sont en train de le prendre. Vous ne vous rendez pas compte, mais ils sont en train de le prendre. Bonjour les dégâts. En ce moment, on a un gouvernement formidable qui est en train de les limiter. Mais en les limitant eux, c'est vous qui les limitez aussi. Parce qu'en les limitant eux, ils vont vous limiter vous aussi dans vos droits et dans vos possibilités. Parce qu'on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Pensez-y. Là, ça serait nécessaire de prier. Là, ça serait nécessaire de prier. Parce que quand ça sera arrivé, la catastrophe, il sera bien temps de dire « Ouais, c'est la faute du gouvernement. » Oui, bien sûr. Jésus est le Sauveur, cependant il nous a donné le pouvoir de participer au rachat des gens. Croître dans la connaissance du Sauveur Jésus-Christ, c'est croître dans la connaissance qu'il est votre Sauveur absolu, puis c'est d'aller sauver les autres. C'est d'aller leur dire, c'est d'aller témoigner, c'est d'être un gagneur d'âmes, c'est ça, être un sauveur d'âmes, un pêcheur d'hommes. Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Oui, mais Michel, il a dit ça aux apôtres, il n'a pas dit ça à toi. Le mot apôtre signifie envoyer. Il a envoyé ses premiers, mais il n'a pas envoyé que les premiers, il a aussi envoyé les derniers. La Bible dit, les derniers seront les... Bon entendeur, salut. Voilà ce qu'il veut que vous sachiez que vous êtes. Vous participez au salut des gens par la prédication, par le témoignage, par le soutien du ministère. Par exemple, c'est là qu'intervient la prière pour le ministère. La semaine passée, avec Michou, on était dans la voiture et on a écouté Radio Protestante. De temps en temps, j'aime mieux écouter Radio Catholique. Radio Notre-Dame, c'est plus spirituel que la Radio Protestante. Si vous m'écoutez là sur Internet... Eh bien, écoutez, réfléchissez, mais franchement, on n'a rien à cirer des fabricants de vitraux et des machins comme ça. Ce qu'on veut, c'est entendre des choses de foi. Voilà ce dont le peuple a besoin d'entendre, des choses positives. Alors, ils étaient en train d'organiser quelque chose de très louable, une nuit de prière pour ceux qui sont torturés dans le monde. C'est bien. Sylvie Vartan, elle, sur Internet, lance une pétition pour ces femmes qui ont été arrêtées dans le pays de Kadhafi, pour avoir soi-disant empoisonné des enfants avec le virus du sida. Elle parle à la radio, elle parle à la télé et tout. Bon, c'est bien. Il faut des actions comme ça. Il faut des actions comme ça. Et lui, là, ce chrétien, à Radio Protestante, il disait, bien sûr, le fait de prier, ça ne va pas régler toutes les choses. La prière, c'est quand même pas un gris-gris, disait-il. Alors moi, j'ai dit... Mais si le gris-gris est plus fort, alors pourquoi prier? Vous voyez dans ce qu'il dit, il véhicule des pensées, mais les gens ne s'en rendent même pas compte. Les gens écoutent, mais ils ne se rendent même pas compte. Mais ça véhicule des idées. La prière, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est quand même pas un gris-gris. Ça veut dire que le gris-gris peut, alors. Vous voyez le poison qu'il met. Ça a l'air, c'est homéopathique. Mais ça a l'air de dire que la prière, c'est de la gnognotte, alors que le gris-gris, c'est mieux. C'est ce qu'il a dit. Qui se taise, ce monsieur, plutôt que de dire des bêtises comme ça? C'est énorme. Il n'y croit pas, en fait. Alors comment on fait? Ah ben, il faut vous inscrire pour la nuit de prière. Ça commence à 10h, parce que maintenant, le soir tombe tard. La nuit tombe très tard, c'est l'été bientôt. Donc, à 10h, on commence à prier jusqu'à 6h du matin. Ah bon, mais pourquoi faut-il s'inscrire? En fait, c'est Dieu qu'on prie. Oui, mais c'est pour organiser, vous comprenez, parce que on va quand même pas prier toute la nuit. Ah bon? Pour des gens torturés, ça ne vaudrait pas la peine de le faire? Non, on va... Alors, voyez, vous vous inscrivez, vous dites, voilà, je prie de 10h à 10h10. Alors, on vous case, puis après, il y a l'autre qui prie de 10h10 à 10h20, on le case, comme ça, on est sûr que toute la nuit, il y a quelqu'un qui prie. Bien confortablement, pour les gens qui sont torturés. Puis on n'est pas sûr que ça fera quelque chose, parce que quand même la prière, c'est pas un gris-gris. Mais on est compte où on en est, et c'est eux qui ont l'auditoire, c'est eux qui parlent à la radio et tout. Mon Dieu. Que Dieu fasse qu'on puisse s'exprimer encore davantage, avec des choses de foi. Ils n'y croient pas. Ils prient par tradition, avec des bons sentiments, sans doute, avec des bons sentiments, avec de l'amour, j'en suis convaincu. Mais il n'y a pas la foi, selon les Écritures et selon Christ qui vit en nous. Alors vous voyez, il y a des degrés dans la prière de la foi, des degrés à ne pas franchir aussi. La prière exaucée, c'est la prière qui va dans le sens de la volonté de Dieu. Et comment savoir ce que Dieu veut? Par la Bible et par la relation que Jésus-Christ a avec nous, en nous. Alors, que signifie tout ça? Eh bien, que vous n'entrez pas dans la grâce par la croissance, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez croître spirituellement que vous allez entrer dans la grâce, non, vous y êtes déjà. Maintenant, vous allez croître là-dedans. Mais que vous avez à croître dans la grâce qui vous a déjà été donnée. Et c'est l'épreuve de votre foi qui vous fait grandir dans la connaissance. Ce qui nous a ruiné, nous, race humaine, c'est la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il y a une autre connaissance, c'est la connaissance de la grâce. La connaissance de la grâce. La grâce Mais que ce que Dieu veut pour vous, il ne veut que du bien. Aussi, grandir dans la grâce, ça signifie que votre âme, vous avez conscience que vous avez besoin de Dieu de plus en plus, que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Et plus vous vous en rendez compte, plus Dieu prend de la place parce que vous lui laissez la place. Vous dites, Seigneur, que je diminue, que tu croisses en moi. C'est ça, croître dans la grâce. La vérité écrite me signale ce dont j'ai besoin et Christ en moi, par sa grâce, me fournit ce dont j'ai besoin. Vous voyez? Mais les deux vont ensemble. On ne peut pas faire que avec un. C'est une alchimie, en quelque sorte. La vérité montre où sont mes manques, la Bible me montre où sont mes manques, et la grâce comble ces manques. Vous voyez? Dieu n'est pas que vérité, il est aussi grâce. Les Juifs, sous l'ancienne alliance, étaient toujours pris en défaut parce qu'ils avaient la vérité. Ils avaient la loi. Et alors ils étaient pris en défaut tout le temps, parce que la loi dit de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Donc ils étaient pris en défaut tout le temps. Alors remercions Dieu de ce que la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça c'est ce que Jean dit, Jean chapitre 1, verset 17. On a besoin de la loi, mais on a besoin de la grâce. Mon Dieu qu'on en a besoin. Aujourd'hui, nous avons la vérité pour le dévoilement de notre incapacité. La parole de Dieu nous dévoile notre incapacité. Et puis nous avons aujourd'hui la grâce comme réponse à ce besoin. Alors voilà ce qu'est la prière. C'est notre position humble qui dit, mon Dieu, aujourd'hui je viens parce que je suis dans le besoin. Et je viens aujourd'hui pour te dire que demain encore je viendrai parce que je serai encore dans le besoin. Et après demain je viendrai encore parce que je serai encore dans le besoin. Et ce n'est pas humiliant pour celui qui est spirituel. Il dit merci Seigneur parce que je suis dans le besoin. J'en suis conscient, je sais que tu le sais, et je suis conscient que je suis dans le besoin et que j'ai besoin de toi. Alors je prie pour mes propres besoins et aussi pour le besoin des autres. Jésus faisait ça. Jésus se retirait pour prier pour ses propres besoins de la journée et aussi pour le besoin des autres. Un jour, il a dit à Pierre, « Pierre, Satan t'a réclamé, mais je priais pour toi. » Il n'a pas dit, « Satan t'a réclamé, alors je vais aller prier pour toi. » Ça aurait mis Pierre dans la panique. Donc, la prière faite par amour, ça ne suffit pas, il faut aussi le tact. Le tact. La prière seule, c'est la plus efficace. La prière en commun, c'est une démonstration de notre amour fraternel devant l'ennemi. Par exemple, c'est pas quand on est ensemble qu'il est bon de prier « Seigneur, bénis le frère un tel au sujet duquel j'ai eu tant de mauvaises pensées. » Vous êtes d'accord? C'est une prière, je suis sûr, j'ai entendu des gens prier comme ça. C'est une prière qui vient vraiment du cœur, c'est de l'amour, mais c'est une bêtise, vous comprenez? Donc, si vous voulez prier tout seul, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, Dieu il comprend, il décode, hein. Mais nous, on n'est pas toujours capable, émotionnellement, ou etc., intelligemment, de décoder tout ce que vous dites. Bien sûr, on croit que vous le dites par amour, mais... Alors, la prière en commun, ça doit être quand même assez général. C'est votre prière seule, dans le secret. Et là, il y a besoin d'une éducation, il faut apprendre ces choses. D'ailleurs, Pierre le dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, pourquoi? En vue d'un amour fraternel sincère, 1 Pierre 1, 22. Donc il y a bel et bien cet amour qu'on développe, cette obéissance à la vérité nous aide à développer un amour fraternel, mais pas un amour fraternel qui n'est pas selon la gentillesse de Jésus. Pierre, Satan t'a demandé pour te cribler, mais ne t'inquiète pas, j'ai prié pour toi, tout va bien. Après coup, l'éducation, c'est un autre sujet. On l'abordera un autre jour. Pour le moment, croissez dans la connaissance de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On se lève, on va faire un dernier chant.